Bonjour à tous. Le Seigneur a beaucoup prié ce matin, a parlé, pardon, ce matin, et est-ce qu'on a eu l'oreille attentive? C'est quoi notre prière à chacun dans notre vie de chrétien? Est-ce que on prie pour c'est bien de prier pour les uns, pour les autres, mais est-ce qu'on a une prière particulière pour l'Esprit? Est-ce qu'on demande à recevoir l'Esprit de Dieu? J'avais abordé il y a quelques semaines, et je vous ai dit que ça serait une suite de plusieurs prédications sur l'Esprit. Donc j'ai commencé à parler et on va tenter de répondre à deux questions. Qui est l'Esprit et que fait-il? Et on a établi que l'Esprit n'est pas une chose, n'est pas une force, mais l'Esprit est une personne. L'Esprit est véritablement Dieu. C'est un don de Dieu. C'est pour ça que je vous demande, est-ce que dans nos prières, on dit « Seigneur, donne-moi ton Esprit ». Et on va voir que, dans cette prédication, on va voir que des fois, on a des idées qui sont fausses sur l'Esprit, sur comment est donné l'Esprit, à quel moment est donné l'Esprit. Et des fois, on est complètement à côté de la plaque, parce qu'on n'a pas du tout l'Esprit de Dieu. Et pourquoi je vous dis ça? Parce que quand on reçoit l'Esprit, il y a un effet sur notre vie. Et on va le voir, je vais le développer plus tard. Et cet effet influe sur notre comportement. Je vous ai parlé dans un premier temps de ce que fait l'Esprit, et c'est la première chose que l'Esprit fait dans nos vies. Il nous convainc du péché. C'est un rôle qui est très important, parce que de là découle toute notre vie de chrétien. Parce que de cette conviction du péché arrive la repentance. Vous avez des gens qui ont entendu l'Esprit, qui ont senti l'Esprit, qui leur a dit « Mais attention, ta vie n'est pas réglée. » Et ils n'ont pas obéi. Et ceux qui se tournent vers Dieu, quand ils se mettent dans cet état de repentance, on a la certitude que l'Esprit va continuer à nous convaincre. C'est ce que disait Alex sur cette personne finée qui disait, qui faisait une liste. J'ai pas été bon dans cette chose, j'ai pas été bon dans cette chose. C'est parce que l'Esprit témoigne à notre conscience qu'il faut encore donner des choses au Seigneur. Et ça nous montre une chose, c'est que même en ayant l'Esprit de Dieu, on n'est pas parfait. Et moi, je loue le Seigneur que je ne suis pas parfait. Parce que je le dis souvent, ça me permet d'être au quotidien au pied de sa croix et d'éviter de m'enfler d'orgueil. Donc cet Esprit nous convainc, il parle à notre conscience, il nous parle par la parole. Que fait-on avec la parole de Dieu? Et l'ennemi vient, il essaie de troubler notre conscience, il nous déstabilise pour nous culpabiliser, pour nous accuser. T'es pas un bon chrétien, t'es pas sauvé. T'es pas ceci, t'es pas cela. Mais est-ce qu'on sait que celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde? C'est inversé dans la parole. Dieu est plus grand. Est-ce qu'on sait que il y a une bataille spirituelle? Et parfois c'est Dieu qui prend cette bataille à son compte. Quand l'Esprit nous convainc du péché, il le fait avec douceur, mais avec force. Et en fin de compte, ça apaise. Ça apaise cette vie qui, d'un seul coup, est bouleversée par la présence de l'Esprit. Et c'est là où on doit obéir. C'est là où on doit se mettre à genoux devant le Seigneur et avoir cet esprit de repentance. Alors, je vous avais dit qu'il y avait sept points. J'ai donné le premier, la conviction du péché. C'est-à-dire que l'esprit nous convainc. Et aujourd'hui, on va voir trois autres points. Il nous renouvelle, il nous remplit et il nous parle. Quand l'esprit nous renouvelle, ça a un effet fantastique, je vous l'ai dit. Le premier passage que nous on va lire, c'est dans Tite, au chapitre 3, les versets 4 et à 6. Tite, chapitre 3, versets 4 à 6. « Mais lorsque la bonté de Dieu, notre Sauveur, et son amour pour les hommes ont été manifestés, il nous a sauvés, non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde, par le baptême de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit qu'il a répandu sur nous avec abondance par Jésus-Christ notre Sauveur. » Souvenez-vous du moment où vous êtes venu à Christ. Souvenez-vous du moment où vous vous êtes rendu compte que vous aviez besoin d'un Sauveur. Est-ce qu'il a eu lieu, ce moment ? Que vous étiez misérable devant la sainteté de Dieu. Il y a des gens qui sont capables de dire « Oui, c'est à tel moment, à telle année, à telle heure, j'étais dans telle pièce. » Et d'autres, ce sont des étapes, oui, à un moment donné, il s'est passé ça. Il y a un autre moment, il s'est passé ça. Mais l'important, c'est que ces gens sont chrétiens. Ils sont vraiment à Christ. Quel que soit le temps ou le moment, ces gens appartiennent à Jésus. Parce qu'à un moment donné, ils ont donné leur vie à Jésus. Alors, ces deux mots « renouveler » et « je régénérer » parlent de la même expérience. Alors, je ne vais pas vous apprendre grand-chose, parce que vous le savez, ces choses. Ceux qui sont régénérés sont également renouvelés. C'est pas possible d'avoir l'un sans l'autre. Les deux choses sont ensemble. C'est ce qu'on appelle en fin de compte la nouvelle naissance. C'est ce que je vous ai dit, c'est que l'esprit vient et change. Notre comportement change. Nos relations changent. Notre manière de voir la vie chrétienne change, puisque c'est plus nous qui vivons, mais c'est Christ qui vit en nous par son esprit. Retenez bien ça, parce que vous allez voir, après ça va beaucoup plus profond, c'est beaucoup plus profond. Donc c'est l'esprit qui à ce moment-là nous fait vivre. Alors, quand j'ai écrit ça, la première question que je me suis posée, c'est est-ce que ma vie démontre la présence de l'esprit ? Alors si on lit Éphésiens 2, le verset 1, « Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés. » Certains croient malheureusement faire ce qu'il faut pour être sauvés. Ils font des grands efforts, de grandes œuvres. Ils font plein de choses. Mais en fin de compte, il n'y a rien. Rien ne change dans leur vie. Leur vie ne change même pas. Parce qu'ils empêchent l'esprit d'agir. C'est un peu l'histoire de la brebis qui est tombée dans le ravin. Et que le berger vient et qu'il se débat. Tant que la brebis va se débattre, le berger ne pourra pas aller chercher la brebis. Et il va attendre le moment où elle est complètement au bord de la mort. Et là, il pourra la prendre et l'emmener. Dans nos vies, c'est exactement la même chose. On se bat avec la religiosité. On se bat avec des histoires préconçues de la vie chrétienne. Et on oublie l'essentiel. Seigneur, donne-moi ton esprit. Et ces gens-là, malheureusement, quand ils vivent selon leurs efforts, selon leurs œuvres, ils ne sont pas régénérés. Ils ne sont pas renouvelés. Ce sont des cadavres spirituels, sans souffle de vie, incapables de faire quoi que ce soit. Et surtout, ils ne pourront pas se sauver eux-mêmes. C'est pour ça que dans Tite, on peut lire qu'on est sauvé selon sa miséricorde. C'est Dieu qui sauve, c'est pas nous. C'est pas nous par nos comportements, par nos présences dans les églises. C'est pas ça qui sauve. C'est Dieu selon sa miséricorde. Plus loin en Éphésiens 2, verset 13. Mais Dieu qui est riche en miséricorde à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous sommes rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. C'est par la grâce. C'est pas par nos efforts. Et l'Esprit est actif dans toute conversion. Dans toute conversion. C'est pas moi seul qui vais me convertir dans un petit coin de l'Église. Non, c'est parce que l'Esprit vient et il nous donne cette conviction. Si vous l'avez vécu, vous devez le savoir. Il m'a convaincu. Il m'a convaincu que j'étais sale. Il m'a convaincu de cette charge qui pesait sur mes épaules. Qu'en ai-je fait? Est-ce que, comme on le dit souvent, j'ai déposé mon fardeau au pied de la croix? Partout, les gens se tournent vers le Seigneur et demandent pardon pour leurs péchés. Et à ce moment-là, ils deviennent des disciples. Et c'est à ce moment-là que l'Esprit rentre et se met à l'œuvre. C'est lui qui donne cette nouvelle vie. C'est lui qui réanime notre corps spirituel qui était mort. C'est la petite goutte d'essence qu'on met dans le moteur et qui commence à partir. Et lorsque l'Esprit vient, ça enflamme. Ça enflamme. Rappelez-vous, quand les disciples étaient dans la chambre, des langues de feu se sont posées. Est-ce qu'on a vécu cela? Est-ce qu'on a vécu cela dans notre vie? Alors lorsque cet esprit vient et il nous remplit. Alors je ne vais pas trop entrer dans le détail parce que j'ai vraiment à cœur de vous parler à la fin de la plénitude de l'esprit qui est une chose très importante pour nous. Donc, de tous les points qu'on va étudier, c'est un point qui a suscité le plus de discussions et de tension dans le monde chrétien. Que veut dire être rempli de l'Esprit Saint? Si je vous pose la question, ça veut dire quoi? On a tous l'image de la bouteille d'eau. De la bouteille d'eau où il y a un liquide sale à l'intérieur. Et puis on veut mettre de l'eau propre à l'intérieur de cette bouteille. Qu'est-ce qu'on va devoir faire avant? La vider. Et lorsqu'on vide cette bouteille, faites l'expérience chez vous. Vous prenez une bassine d'eau propre, vous appuyez, mais vraiment fort pour que la bouteille d'eau devienne toute plate, vous la mettez dans l'eau et vous lâchez. Vous allez voir, elle va se remplir. C'est l'image parfaite de ce qu'on a à faire dans notre vie. C'est nous vider. Nous vider des saletés. Nous vider des impuretés. Et celui qui appuie, ce n'est pas nous, c'est Dieu. C'est Dieu qui en a la force. C'est Dieu qui en a la puissance. Et c'est Dieu qui va lâcher au moment où il veut, selon sa miséricorde, pour que nous puissions être remplis. En Actes 2, verset 4, et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait à s'exprimer. En Actes, chapitre 8, verset 14 à 17, les apôtres qui étaient à Jérusalem, ayant appris que la Samarie avait reçu la parole de Dieu, y envoyèrent Pierre et Jean. Ceux-ci, arrivés chez les Samaritains, prièrent pour eux afin qu'ils reçussent le Saint-Esprit, car ils n'étaient pas encore descendus sur aucun d'eux. Ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur. Alors Pierre et Jean leur imposèrent les mains et ils reçurent le Saint-Esprit. Ce qu'on vient de lire là, c'est ce qui s'est passé au temps, dans les premiers jours de l'Église. Dans Actes 2.4, nous lisons un récit de la Pentecôte. Les apôtres et ceux qui étaient avec eux étaient tous remplis du Saint-Esprit. Ils étaient déjà chrétiens. Même si ce terme n'existait pas en ce temps-là. En fin de compte, l'Esprit est venu habiter en eux. Il les animait pour le travail à faire pour Jésus. C'est plus eux qui bougeaient, c'était l'Esprit qui était en eux, qui les faisait avancer. Et quand on connaît l'histoire de Pierre, il a fait des miracles. Il a même guéri des gens avec son ombre. Voilà la puissance de l'Esprit. Et en Matthieu 28-19, on peut lire à l'effet de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Lorsqu'on reçoit cet esprit, c'est Dieu qu'on reçoit en nous. Il sera avec nous jusqu'à la fin du monde. Dans le livre des Actes, maintenant l'esprit est présent avec le peuple. D'une manière incroyable, comme ça n'a jamais été vu auparavant. Et on sait que dans l'Ancien Testament, certains étaient saisis par l'Esprit pour une mission, et aussitôt que la mission était remplie, l'Esprit repartait. La différence avec le Nouveau Testament, c'est que lorsque l'Esprit vient, il reste. Il nous remplit. La différence est là. Je ne sais pas si vous imaginez cette magnificence que l'Esprit vient et reste. Et ça, ça a été fait exactement comme l'avait promis Jésus. Je vous enverrai un consolateur. Et le deuxième passage en acte 8 qu'on a lu, en fin de compte, c'est Pierre et Jean qui sont allés voir les nouveaux convertis, les Samaritains qui est, je pense que vous le savez, étaient les ennemis des Juifs. Et ce qui était inconcevable, c'est qu'eux-mêmes avaient reçu le Saint-Esprit. Ça nous fait dire qu'en fin de compte, l'Esprit remplit qui il veut, de quelque nation que ce soit, de quelque religion, entre guillemets, que ce soit. Pourquoi on voit nos musulmans se convertir, à votre avis ? C'est parce que l'Esprit ne fait aucune différence. Il ne regarde pas le rang social. Il ne regarde pas de où on vient. Il ne regarde pas notre cœur, comment il est fait. Ce qu'on a fait avant, puisqu'il nous dit « Règle ta vie ». Voilà ce que fait l'Esprit. Donc ils ont cru, ces Samaritains. Et Pierre et Jean leur imposèrent les mains, ils reçurent l'Esprit, c'est-à-dire qu'ils étaient baptisés du Saint-Esprit. Et le point qui a divisé beaucoup d'églises, c'est pourquoi ce délai ? Pourquoi ces gens n'ont-ils pas été remplis de l'Esprit au moment où ils ont cru ? La réponse va montrer ce que nous croyons. Lorsqu'un chrétien se fait baptiser, Ça va vraiment nous ouvrir les yeux. Certains chrétiens croient qu'il est possible d'être chrétien sans avoir reçu le baptême de l'Esprit, c'est-à-dire être un vrai chrétien. Vous allez dans les églises, si vous ne parlez pas en langue, si vous ne donnez pas des prophéties, c'est que vous n'êtes pas un vrai chrétien. En fait, quand ils disent que il vous manque quelque chose. Alors, ceux qui prennent cette position disent qu'une personne doit veiller et prier pour recevoir l'Esprit. Et pour certains, comme je vous ai dit, c'est un signe lorsqu'on commence à parler en langue, lorsqu'on commence à donner des prophéties, lorsqu'on a des dons. Pour certains, c'est le point central. Pour ces gens, en fin de compte, le baptême de l'Esprit, ça se passe à un moment bien précis, après le baptême d'eau. Après ce qu'on appelle la conversion. Et certains n'y arrivent jamais. Ils restent, selon la croyance de ces chrétiens, des chrétiens charnels. Mais ça ne veut rien dire du tout. Ce que je suis en train de vous dire, ça ne veut absolument rien dire. Chrétien charnel, ça n'existe pas. Et il y a d'autres qui vont vous dire que c'est impossible d'être chrétien sans être baptisé par l'Esprit. Au moment où une personne devient chrétienne, elle reçoit l'Esprit dans sa vie. Le terme baptisé ou rempli parle de ce moment-là. Donc dans ce que je viens d'expliquer, il y a deux points opposés. C'est une différence qu'on appelle une différence théologique. Et malheureusement, ça a un impact incroyable sur les pratiques dans les églises. De la communion entre les frères et les sœurs. C'est-à-dire que vous allez dans certaines églises, si vous ne commencez pas à parler en langue, vous êtes rejeté. Et ce qui est malheureux, c'est que vous avez des gens qui sont dans ces églises-là, qui inventent. Qui inventent des prières en langue, qui inventent des prophéties, qui inventent des choses incroyables, qui inventent tellement que l'Esprit de Dieu n'y est même plus présent. Parce qu'on remplace l'Esprit de Dieu par nos pensées. Mais sur ce que je dis, vous pouvez demander à d'autres que moi pour avoir une analyse peut-être autre que la mienne. Mais je trouve que c'est très dangereux. C'est très dangereux d'avoir ces positions parce que Dieu n'agit jamais de la même façon pour une personne ou une autre. Vous vous rappelez l'histoire de cette brebis? Vous avez des gens qui, tout de suite, se donnent au Seigneur. Tout de suite obéissent. Et d'autres sont encore rebelles. D'autres se débattent encore. Et Dieu attend, puisque le temps de Dieu n'est pas le nôtre, même si au dernier moment, on est sauvé, on a la vie éternelle. Je vais essayer de raccourcir un petit peu. Donc pour Pierre et Jean, les Juifs, il était difficile pour eux de croire que les Samaritains avaient été sauvés et avaient été baptisés du Saint-Esprit. C'était inconcevable. Mais Jésus leur avait dit qu'ils seront des témoins dans la Judée, la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Et pour Pierre et Jean, ils avaient besoin de voir cette nouvelle s'accomplir. Et ils l'ont vu. Ils ont été convaincus de la réalité de cette parole, de la réalité de la conversion des Samaritains. Et ils ont dit que ces chrétiens avaient besoin de l'Esprit de Dieu. Ils savaient qu'ils avaient reçu cette parole. Ils savaient qu'ils avaient un amour pour Jésus. Et Pierre et Jean savaient aussi une chose, c'est qu'ils devaient leur imposer les mains pour qu'ils reçussent le Saint-Esprit. Et Dieu envoyait l'Esprit. Les païens, les Samaritains, les païens, ont reçu l'Esprit. Et ils ont vu des choses magnifiques s'accomplir au milieu d'eux. L'Esprit avait été donné avant l'arrivée des apôtres. Si l'Esprit avait été donné, pardon, avant l'arrivée des apôtres, est-ce que Pierre et Jean auraient cru à cette parole de Jésus ? Non. Il fallait que Pierre et Jean soient témoins de l'accomplissement de la parole. Il fallait qu'ils en soient les auteurs, c'est-à-dire qu'ils imposent les mains et que l'Esprit vienne au moment où ils imposent les mains. C'est afin que tout puisse être compris et catégorisé par Pierre et Jean. Il fallait qu'ils voient l'Esprit agir dans ce lieu, parce que les apôtres avaient été témoins de l'arrivée du Saint-Esprit. Au milieu d'eux, ils ont tout vu le jour de la Pentecôte, puisque ça leur est arrivé. Mais ils avaient besoin de voir l'Esprit arriver sur d'autres personnes et les remplir. Le livre des Actes des Apôtres est un récit qui se passait au premier jour de l'Église. Il n'y avait aucune indication que l'Esprit agira de cette façon-là. Il n'y avait rien qui disait que les premiers apôtres, ça leur est arrivé dessus dans une pièce et ailleurs on imposerait les mains. Ils ont pris, en fin de compte, ce qui se passait à ce moment-là. C'est pour ça que prendre des positions sur lorsqu'on est baptisé, on doit recevoir l'Esprit, on n'en sait rien. Les apôtres viennent de le démontrer. Puisque pour eux, ça leur est arrivé quand ils étaient dans une pièce et pour d'autres, ils ont dû imposer les mains. C'est Dieu qui choisit. Et regardons le verset 13 de 1 Corinthiens chapitre 12. Nous avons tous en effet été baptisés d'un seul esprit pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre. Et nous avons été abreuvés d'un seul esprit. La réponse, elle est dans ce verset-là. Soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre. Il n'y a aucune condition. Ici, Paul parle de l'Église tout entière, non seulement des églises de Corinthe, mais de l'ensemble de ceux qui ont cru en Jésus-Christ. Il explique que nous formons un en Christ, un seul corps. C'est parce qu'on a chacun été baptisé du même esprit. Il n'y a pas 36 esprits, il n'y en a qu'un seul. Et lorsque cet esprit nous remplit, c'est là où vient le même amour, les mêmes pensées, les mêmes affinités, les mêmes façons d'agir, les mêmes comportements. Un chrétien qui a reçu l'Esprit de Dieu n'est pas différent d'un autre chrétien qui a reçu l'Esprit de Dieu, puisque c'est la même essence qui les fait vivre. Christ lui-même qui demeure en eux et eux qui demeurent en Christ. Je ne vous apprends rien, vous le savez ça. Mais ici, est-ce que l'apôtre parle du baptême d'eau ? J'ai pas l'impression. Il parle vraiment du baptême de l'Esprit. Et c'est dans cet esprit-là qu'on est unis, dans rien d'autre. C'est plus des camaraderies, c'est plus des choses sensibles, c'est l'Esprit de Dieu qui nous unit. L'esprit est commun dans une assemblée. Donc il faut que chaque chrétien reçoive cet esprit. Il faut que chaque chrétien reçoive cet esprit pour parler le même langage, le langage de Christ. Pourquoi des fois les gens ont des vies complètement détournées ou de travers? C'est parce qu'ils ne parlent pas le même langage. Parce qu'à un moment donné, ils s'écartent de l'esprit qu'ils ont reçu. Pourtant, l'esprit vient et parle. Est-ce qu'on a encore cette faculté d'écouter ce que l'esprit nous dit? Si vous prenez un aimant, prenez deux aimants. Vous essayez de les rapprocher, vous allez voir, ils sont... C'est quand ils sont puissants, c'est pas possible. Faites l'expérience chez vous. Vous les retournez, vous en retournez un sur les deux. Pouf, ils vont se coller. C'est exactement ce que fait l'esprit dans nos vies. On a notre vie au départ qui est comme ça. Ça, c'est l'esprit qui arrive. Et notre vie, elle est comme ça. Et des fois, on résiste. On résiste parce que l'esprit qu'on a en nous n'est pas celui qui veut nous attirer à ce que fait Dieu, c'est qu'il retourne notre vie. Quand je dis retourner, c'est tout chambouler. C'est-à-dire que il fait en sorte que la conviction du péché vient dans notre cœur. Et on est retourné. Parce qu'on sait qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et à ce moment-là, lorsque notre vie se retourne, crac! Tout de suite, on est attiré. Est-ce qu'on a connu ce retournement dans nos vies? Est-ce qu'on a été rempli de l'esprit? Et vous verrez, lorsque j'aborderai la plénitude de l'esprit, on rentre dans des choses qui sont vraiment puissantes. On a besoin de connaître cette plénitude au quotidien. Le dernier point de cette prédication, c'est l'Esprit nous parle. Il y a encore des versets à chercher. L'Esprit nous parle, premièrement, et ça je ne vous dirai pas autrement, par la parole. Lorsqu'on ouvre la parole de Dieu, on a toujours quelque chose qui nous accroche. Dans un verset, on a toujours quelque chose qui nous accroche. Et on se dit, mais ça m'est arrivé, mais ça a dû vous arriver, mais pourquoi le Seigneur me donne ces choses sur le cœur? Et on se met devant le Seigneur, on dit, Seigneur, mais pourquoi? Et parfois, c'est pour une situation de travail. Parfois, et même souvent, c'est une situation nous concernant, quelque chose à régler devant le Seigneur. Ou alors, c'est quelque chose pour un frère, une sœur dans l'Église. Et parfois, le Seigneur nous parle en rêve, en vision et en prophétie. Si on accepte, bien sûr, que c'est par ces moyens-là qu'il nous parle. Parce que d'autres, mais ça, je ne vais pas m'étendre là-dessus, d'autres réfutent même ces choses. Mais c'est par la parole et la Bible en premier que Dieu nous parle. Et elle nous explique comment vivre notre vie chrétienne. Tous les autres moyens, Dieu les utilise également, notre conscience, les rêves, les visions, les prophéties, mais toute chose doit être soumise à cette parole de Dieu. Pourquoi? Parce que la parole est la révélation de Dieu lui-même. Il est le livre de la vérité pour le peuple. Et l'Esprit en est l'auteur, puisque c'est lui qui a inspiré ceux qui l'a écrit, ceux qui ont écrit la parole. En 2 Pierre, chapitre 1, verset 21, Car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Ici, Pierre parle de l'origine divine de la parole. Quand il dit que les hommes ont été poussés par l'Esprit, en fait, quand il a en tête le bateau sur une rivière, l'eau et les courants soutiennent ce bateau. Et c'est ainsi que ceux qui ont écrit la parole de Dieu, dans le contexte de l'Ancien Testament, ils ont été portés par l'Esprit, ils ont été dirigés par l'Esprit, ils ont été conduits par l'Esprit de Dieu pour écrire la vérité de la parole de Dieu. Et ce verset que vous connaissez, 2 Timothée 3,16, nous dit que toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toutes bonnes œuvres. C'est la parole de Dieu qui fait ces choses. Ce n'est pas notre intelligence. Si on compte sur notre intelligence, on va se planter. Et si Dieu parle ainsi au travers de sa parole, c'est qu'il veut que nous vivions une vie saine. Alors si quelqu'un croit que l'Esprit lui parle de quelque moyen que ce soit, il doit accorder le fait que ce qu'il dit est conforme à la parole de Dieu. Parce que si l'Esprit se contredit, c'est-à-dire contredit la parole de Dieu, toute la foi s'écroule. C'est important ce que je vous dis. C'est très important. Parce que il y a des églises qui ont été détruites comme ça. Elles ont été détruites parce qu'elles ont suivi une prophétie qui n'en était pas une. Quand quelqu'un dit « l'Esprit m'a dit que » ou « l'Esprit m'a montré », notre première réponse, ça doit être « est-ce que cela s'accorde avec la parole de Dieu ?» Est-ce qu'on a ce réflexe d'aller voir dans la parole, de vérifier ce qui a été dit ? Paul parle des prophéties en 1 Corinthiens, on l'a vu avec Alex, 1 Corinthiens chapitre 14, verset 29. Pour ce qui est des prophètes, que deux ou trois parlent et que les autres jugent. Alors ici, il ne suffit pas de dire non, non, ça c'est des bêtises. C'est pas ça que est en train d'expliquer Paul. Ou bah alors, bah ça je pense que c'est bon, ça c'est moins bon. Non. Juger, ça veut dire regarder par rapport à la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui va juger la prophétie. Et malheureusement, c'est pour ça qu'il y a des églises qui sont tombées parce qu'ils n'ont pas vérifié ce qui avait été dit. C'est comme ça que des vies ont été mises par terre parce que des gens ont suivi ce qui a été dit. Mais ça n'avait rien à voir avec l'Esprit de Dieu. Ça peut arriver que dans une église, quelqu'un reçoive une parole, une prophétie.